Bonjour et bienvenue, vous l'avez entendu, c'est la rentrée de Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, dans tous les sons et dans tous les sens.
En direct du studio 511, une émission réalisée par Jérôme Chélus, assistée d'Ismaël Alissat, avec à la technique aujourd'hui Lucas Vaillant et Nicolas Slimani.
Au sommaire cette semaine, un été pourri sur la Côte d'Azur et vive le cochon sauvage sur Radio U Zest.
L'islam, religion dangereuse.
C'est comme si nous, on ne pouvait pas être en deuil. Comme si on avait une responsabilité là-dedans et que du coup c'était indécent qu'on soit triste.
Ça. Pensez avec audace. Avec audace. Purée. Soyez audacieux ce soir, bon Dieu, et demain aussi.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent?
Comme un bruit qui court, c'est reparti et c'est une joie de vous retrouver pour cette nouvelle saison sociale. Affûtez vos oreilles et montez les amplis. Après un été pourri, le bruit redémarre avec une émission de rentrée qui fait le grand écart. Des polémiques autour du burkini, aux utopies que certains construisent avec audace. Comme un bruit qui court, déjà sur tous les fronts, à commencer par le front de mer. Cela ne vous aura pas échappé, pendant que certains ont passé l'été à chasser les Pokémon, d'autres l'ont passé à chasser les femmes trop habillées. Ironie de l'histoire, à l'heure où l'on fête les 70 ans du bikini, c'est aujourd'hui le burkini qui est taxé d'attentat à la pudeur. Pour accéder à la plage, il faut une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs, précise l'arrêté anti-burkini cannois. Trop vêtu ou au contraire pas assez, c'est à chaque fois le corps de la femme qui est visé, devenu comme l'incarnation d'un corps social fracturé, le terrain de lutte de politique bien mal à même de s'attaquer au problème du chômage et de la précarité. Alors loin des récupérations politiques, Guy Vanctil est parti écouter ceux qui en ont bavé tout l'été, des attentats aux salves de crachats et qui, de tristesse en humiliation, ont choisi de se relever. Et pendant que sur le front de mer, certains cherchent à calmer la tempête, d'autres au fond des terres construisent des alternatives. À l'économie ultralibérale et à son monde triste, violent et précarisé, le festival du Zest oppose création sonore et solidarité. Ainsi sont nées les Nuits Nebout. Avatar burlesque et complètement déjanté de Nuit Debout. Création sonore de haute volée concoctée par Radio Uz et remixée par Antoine Chao pour cette rentrée. Et de la boucherie Nebout, où tout a commencé, Antoine vous emmènera ensuite à Saint-Symphorien, là où un méga projet de ferme-usine, 12 000 porcs s'il vous plaît, fait grincer. Deux mondes qui s'opposent, deux projets de société, sur le front de mer comme au fond des terres, comme un bruit prend parti. C'est la rentrée, ça ne fait que commencer, alors tendez l'oreille et écoutez jusqu'à 17h sur France Inter, dans tous les sons et dans tous les sens. C'est parti.
Antoine Chao,
Charlotte Perry,
Guy Vanctil. Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Un foulard est un foulard. Bon. Un burkini est un burkini. Oui. Une burqa est une burqa.
Mais la burqa est interdite en France.
L'affaire des burkinis. Chacun voit bien que c'est une provocation. Une provocation au service d'un projet d'islam. Radicalisé.
Oui. Le burkini, cette appellation est issue du mot
oui.
Bikini
oui.
Et burqa.
Oui.
Et c'est pour moi un symbole d'asservissement de la femme.
Où on voit de plus en plus de comportements communautaristes. Vous savez ce qui se joue aujourd'hui? C'est la soumission de la femme dans nos territoires. C'est ça qui se joue. Et je ne laisserai pas faire en France. Ça, je vous le dis, je ne laisserai pas faire.
Ici, c'est France. C'est la France.
This is the French Republic. Everyone is equal, without any distinction of race or religion. It's France.
Charlotte vous l'a dit, pas mécontent de vous retrouver à l'antenne après un été pourri à Nice, les nerfs à vif. Après l'attentat du 14 juillet et le deuil, vous aurez sans doute remarqué combien les noms d'oiseaux ont fusé tout l'été. Salafistes, laïcards, islamo-gauchistes en convoquant l'islam de France, la laïcité, l'identité nationale. Confortant les convaincus d'un bord comme de l'autre, attisant escalade verbale et vrai débordement. toute cette mascarade qui s'est achevée cette semaine après le verdict du Conseil d'État aura creusé un peu plus le sillon identitaire que va labourer notre campagne présidentielle jusqu'en mai prochain. Alors pour cette émission de rentrée, nous avons voulu revenir sur cette affaire avec un portrait, celui d'une femme qui lutte contre ce vent mauvais. Comme beaucoup de Français après le 14 juillet, Faiza Ben Mohamed a passé un été pourri. D'abord l'horreur, l'effroi et le deuil pour cette mère de famille niçoise de 30 ans. Puis vint le torrent de réactions racistes ou hostiles dès la fin de la cérémonie officielle du 18 juillet où elle est prise à partie. Puis vint la pathétique polémique du burkini où, engagée comme porte-parole de la petite fédération des musulmans du Sud, de 120 membres, cette musulmane qui ne porte pas de voile s'est retrouvée propulsée dans un débat devenu international. Autant de débats souvent douteux où les musulmans de France sont encouragés à être discrets, mais Faiza, elle, ne s'y résout pas. Portrait en lutte après un été pourri.
Marwan,
après.
Je m'appelle Faiza Ben Mohamed, j'ai bientôt 31 ans, je suis porte-parole de la Fédération des musulmans du Sud et je poursuis en parallèle des cours de droit avec le CNED. Je suis maman de deux petits garçons qui ont 3 et 4 ans et qui demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie.
Et Faiza, là on est en train, il y a votre enfant qui joue en jouant avec son pistolet à eau, c'est la rentrée des classes. Et comment s'est passé votre été ?
Le mois de juillet a été chaotique après l'attentat, malheureusement. On a perdu tous des proches, on a perdu 86 des nôtres. On a passé un mois de juillet de sidération et de profonde émotion. Et puis quand on a cru qu'on pouvait peut-être essayer de construire un vivre ensemble, eh bien, on se retrouve face à un mois d'août où les élus locaux prennent des restrictions sur les libertés de la communauté musulmane et du coup, pas de vacances non plus au mois d'août. Pas de répit, si vous voulez. Pas de répit.
Des échanges parfois violents ont éclaté dans différents quartiers de la ville où des propos racistes se sont fait entendre.
Une parole raciste libérée. C'est ce que ressentent une partie des habitants du quartier de la Madeleine à Nice, l'un des plus endeuillés après l'attentat. Des discours anti-musulmans qui se propagent, parfois de manière radicale.
Et tout ça a commencé avec le choc de l'attentat du 14 juillet, au bout de la promenade des Anglais qui fait tout le Nice, et là on est à un autre bout, pas loin de l'aéroport, et ça s'est passé à l'autre extrémité. Et vous étiez là ce soir-là ?
Je savais pas qu'il y avait un attentat, je roulais sur la promenade des Anglais et je me suis retrouvée face à un ami au niveau de l'hôpital Lanval, à mi-chemin, quoi. Et je le vois sur la prom et je m'arrête pour le saluer, et il me montre le sol. Et je vois qu'il y a un corps par terre. Et en fait, donc, je suis descendue de la voiture pour voir ce qui se passait. C'était sa mère. Elle est décédée sur le coup. Elle a été la première victime du camion. C'est une maman qui faisait régulièrement à manger pour nous à la Fédération des musulmans du Sud pour nos distributions de repas au SDF. Elle a été sa première victime. C'était une maman qui était voilée, qui allait fêter le 14 juillet sur la promenade des Anglais, comme la plupart des Français. Et plus on avançait, et plus les corps étaient confinés, en fait. Et plus on avançait, et plus on se rendait compte qu'en réalité, c'était pas juste un accident, que c'était forcément un massacre.
Sur la promenade des Anglais à Nice, le feu d'artifice du 14 juillet vient de se terminer lorsque tout à coup...
À la une, édition spéciale consacrée ce soir à l'attaque qui a ensanglanté la promenade des Anglais à Nice en pleine célébration du 14 juillet.
Les personnes se trouvant sur place trouvent refuge là où elles le peuvent.
Un bilan effroyable, au moins 84 morts, 200 blessés dont 50 sont toujours dans un état critique.
Un mouvement de panique commence alors, un camion fonce sur la foule.
C'est très difficile d'assister à tout ça, d'arriver juste après. Je pense que je devais rouler derrière ce camion, mais pas longtemps après. Je devais avoir peut-être 10 minutes de retard sur lui, quoi. Et que ça arrive devant chez vous, sur vos amis, sur des gens que vous avez côtoyés, sur des voisins. Dans ce bâtiment ici en face, il y a un petit garçon de 4 ans qui est décédé. Il y a une maman avec sa sœur qui est décédée aussi dans l'étage en dessous.
Dans la tour là, qui est juste en face de nous.
Juste en face de... Juste là dans le bâtiment, ouais. C'est difficile après de se réveiller et de se dire que ouais, c'est arrivé ici, c'est arrivé chez nous. Ils ont tué les nôtres.
Il y a eu 86 morts ici, à Nice.
Ouais, 86 morts. 86 morts, dont 10 enfants. En fait, vous dites juste qu'il n'y a pas de limite à la folie humaine, en vrai. Marwan, quand il se passe un attentat comme celui qui vient de se passer le 14 juillet, forcément, vous êtes anéanti par la peine. Mais après, très vite, elle laisse de la place à plein d'autres sentiments. L'angoisse, la peur de tout ce qui va se passer après, parce que ça va rester encore, on va rester dans les amalgames de fait, à savoir la communauté musulmane responsable de cet attentat, ou les jeunes issus de l'immigration, la communauté maghrébine.
On sait que ça va arriver, ce discours-là, tout de suite.
Ah oui, 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 on savait tout de suite, bien sûr. Mais par contre, ici, ça arrivait très, très vite. C'est qu'on n'a pas eu beaucoup de temps. C'est qu'ici, quand on va sur la promenade des Anglais, 3 jours plus tard, pour la minute de silence...
C'était le 18, après les 3 jours de deuil national, cette grande minute de silence.
Où il n'y a pas eu de silence, en fait, finalement, il n'y a eu aucun silence. Les élus se sont fait siffler.
Il a été hué avant et après la minute de silence, des sifflets de la foule, ponctués de cris de démission ou assassin.
Une cérémonie qui a été marquée par l'UE, dirigée contre Manuel Valls, accompagnée notamment de Christian Estrosi, des membres du gouvernement.
Les sifflets, je trouvais ça déjà déplacé, même s'ils étaient adressés aux élus. Je trouvais que ce n'était pas le moment. Et puis après, très vite, quand la foule s'est dispersée, nous, on était avec un groupe de mon association, donc peut-être 6 ou 7.
4. Vous qui n'êtes pas voilée, bien sûr.
Moi qui ne suis pas voilée, mais il y avait 4 filles qui l'étaient. Du coup, il y avait des filles qui portaient le foulard, qui se sont faites traiter de filles de la honte, qui se sont faites bousculer, qu'elles n'avaient pas besoin d'être ici, que c'était une provocation, pourquoi vous venez de narguer, même dans ces moments-là. Les gens n'acceptaient pas notre présence. C'est comme si on était coupables de fait. Les gens ne pouvaient pas du tout envisager qu'on ait pu être choqués, comme si ce n'était pas notre pays, comme si ce n'était pas les nôtres, comme si on n'était pas niçoise. Parce qu'en fait, ils considèrent qu'on ne fait pas partie des leurs.
Vous autres ?
Nous autres, nous, les Arabes, les musulmans, les, je ne sais pas, qui posent problème ici, dont la présence pose problème. Et puis en plus, au lendemain des attentats, quand vous avez déjà des élus locaux qui lancent des polémiques sur la notion d'identité nationale, les notions d'appartenance, clairement qui prennent un virage identitaire à 180 degrés, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué parce qu'en fait, il légitime la pensée raciste, il légitime la parole raciste, il la banalise, il la normalise. Ben, c'est eux qui donnent la météo, quoi.
Et la météo, cet été, a été pourrie.
Ah ben là, la météo de merde, ouais, effectivement. Effectivement, ouais. Il faisait beau, mais qui a profité de son été, quoi ? Qui ?
En France, on assassine, on égorge, on massacre, on tue le jour de notre fête nationale au nom de l'islam dans ce pays. Et vous,
alors
Madame
l'islam,
Clinton,
puisque vous vouliez parler de l'islam, religion dangereuse ?
Et puis après, vous avez ces arrêtés anti-burkini qui, sous couvert d'état d'urgence et de lutte contre le terrorisme, interdisent à des femmes musulmanes d'aller à la plage.
Le 28 juillet dernier, le maire de Cannes a pris un arrêté. Pour accéder aux plages, il faut une tenue correcte, respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité.
Si nous laissons le burkini se généraliser, des jeunes filles qui veulent être en bikini ou en maillot de bain seront, par la pression de leur communauté, obligées de prendre une tenue vestimentaire qui ne correspond en rien, non seulement au mode de vie français, mais à un principe essentiel chez nous, l'égalité stricte de la femme et de l'homme.
Et voilà comment vous, Faiza, vous vous êtes retrouvée en tête de ce combat-là. C'est presque ironique que vous vous retrouviez en train d'obliger de défendre le burkini, sachant que ce n'est pas le genre de costume de bain que vous portez. C'est que voilà, vous êtes obligé de vous battre pour ce costume.
Ben, au final, ce que personne ne veut comprendre, c'est que ce n'est pas se battre pour le burkini, c'est se battre pour la liberté. Je me serais battue de la même façon si demain on n'avait plus le droit d'aller à la plage en culotte. Quoi. Je ne défends pas le burkini, c'est un truc, même vous me payez, je ne le porte pas. Quoi. Voilà. Mais après, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas concerné qu'il faut laisser de côté le combat et considérer que « Ah ouais, mais moi j'aime pas le burkini, c'est vrai, ils ont raison. » Non, ils ont pas raison. Même si t'aimes pas le burkini, c'est pas comme ça qu'il faut faire.
C'est pour éviter qu'il y ait des problèmes qu'on ait encore...
Cette vidéo a été tournée il y a 2 jours sur une plage de Nice. On y voit un policier municipal attendant de pied ferme une jeune fille voilée à la sortie de l'eau. Hier, toujours à Nice, une autre vidéo fait polémique. On y voit, cette fois, une femme aussi voilée, simplement installée sur la plage, verbalisée par un policier municipal.
Les femmes en burkini sur la plage risquent une amende de 38 euros. Injuste, selon l'association des musulmans du Sud, qui conteste l'arrêté.
Faïza Ben Mohamed, porte-parole de la Fédération des musulmans du Sud, a été une des premières à diffuser ces vidéos. Elle dénonce des scènes particulièrement choquantes.
Je suis porte-parole de la Fédération des musulmans du Sud, une association, donc a priori je ne représente que mes membres. On est 220 et pas 221. Et du coup, quand vous portez une parole publique comme ça, vous vous retrouvez du coup en espèce de porte-parole de toute une communauté. Et c'est hyper compliqué à gérer. Vous engagez beaucoup plus de monde qu'à votre habitude. Entre le moment où je poste l'arrêté de David Lisnard sur Twitter et où personne n'est au courant, et le moment où ça devient une polémique nationale,
Et que vous vous retrouvez sur BFM TV.
Et que ça devient après international et que vous êtes contacté par CNN et par plein d'autres médias internationaux. Je vous avoue qu'il y a des moments où je me suis dit, est-ce que j'ai bien fait de faire tout ça, quoi. Je suis convaincue par mon combat, c'était même pas la question. Mais c'est flippant parce que vous vous dites, est-ce que j'ai les reins assez solides pour supporter la contre-attaque? Parce que c'est sûr, ils vont forcément contre-attaquer. Et après, ça n'a pas loupé, hein. C'était des accusations d'islamisme via Nice Matin.
C'est-à-dire que vous seriez une espèce d'agent dormant de l'islamisation?
Ouais, c'est ça. C'est que je suis une association d'islamistes communautaires et sectaires. Je suis le cheval de Troie de la Fédération des musulmans du Sud, caché derrière moi. Sauf que j'aimerais bien qui sont eux et qui se cachent derrière moi et comment. Parce que la parole que je porte, c'est d'abord la mienne, quoi. C'est d'abord la mienne.
C'est-à-dire que vous êtes ramené au statut, constamment au statut, vous autres les musulmans, mais dès que vous parlez en tant que tel, vous êtes communautariste.
On a un problème tout le temps, en fait. En fait, je pense que c'est le début. Là, il va falloir se préparer à être utilisé comme un paillasson électoral par une certaine partie de la classe politique, quoi. Ouais. Je crois qu'on va avoir le droit à tout et n'importe quoi. Ouais, les élections présidentielles hystérisent complètement le débat. Il n'y a plus personne qui arrive à avoir une position rationnelle. Parce que quand vous les écoutez dans leur programme ou dans leurs propositions pour lutter contre le chômage, pour l'économie, non, il n'y a rien. Là, on est sur un volet purement identitaire. Et quand vous vous rendez compte après qu'il n'y a aucun burkini qui a été verbalisé, c'est quasiment que des femmes voilées. Même quand elles n'ont pas été verbalisées, on leur a dit, vous savez que vous n'avez pas le droit de rester là. C'est très humiliant. Et en plus, ça crée un spectacle. Parce que vous avez ceux qui, du coup, se permettent des paroles racistes, ce qui pensent que la police va cautionner. Et après, vous avez ceux qui vont soutenir la femme et qui vont se lever et qui vont dire, mais comment ça se passe? Pourquoi vous la virez? La liberté, c'est pas ça. Vous manipulez. Etc. Et puis, effectivement, ça trouble l'ordre public. Mais ce ne sera pas le burkini qui l'aura troublé, c'est l'arrêté. On a créé les conditions d'un trouble à l'ordre public. Quand vous faites ça, vous avez forcément après deux camps qui s'affrontent. Et forcément, ça va au clash. Mais peut-être que c'est ça qu'ils voulaient.
On doit vivre ou mourir ensemble.
Je pense que c'était un problème, mais que tu allais juste t'en
écouter. Vivre ou mourir ensemble.
Tu peux fermer? Allez, viens, on rentre. Viens.
Ensemble.
C'est l'heure des devoirs.
Il est naturel d'avoir peur. De là naît le courage. Comment rêver en couleur quand le futur n'annonce que l'orage? Le bonheur que l'on bricole disparaît dans la grisaille. Que nos espoirs s'isolent de la folie qui les cisaille. Ensanglantés d'amertume, des journées de ténèbres aux aurores teintées de brume. Exhume des rancunes funèbres, la haine nous fait du pied. Nous propose une danse mortelle et rythmée au tempo de nos vengeances. Si les rêves de paix sommeillent certainement chacun, on peut perdre son humanité dans un labyrinthe de chagrin. Comment raisonner face aux soldats de la démence? La peur nous fera prisonnier des ennemis de la clémence. Architecte de la destruction, maçon de l'horreur, cultivateur d'abominations qui confondent beauté et laideur, mémoire et aigreur, désir de justice et fureur. Tire sur la foule des balles aussi aveugles que leur cœur, plongé dans l'excès, noyé dans la vanité. Les plus ignorants se croient l'élite de l'humanité. Les folies de la colère nous révèlent à nous-mêmes. On sait ce que l'on tolère, qu'une fois face à l'extrême, un seul tonnerre de violence assourdit nos beaux discours et nous voilà prêts à jeter la France dans la guerre civile d'Éric Zemmour. C'est le jeu de la division, du commerce, de la terreur. Comment faire sombrer la nation dans la déraison puis l'horreur? Des chefs d'orchestre sordides instrumentalisent nos peines de piètres cupides qui détestent plus qu'ils n'aiment. Ceux qui désirent l'affrontement souvent ignorent sa réalité. Leur arrogance n'a d'égal que leur lâcheté. Ils soufflent sur des braises planquées dans leur confort. Nous chantent la Marseillaise tant que la mort reste inodore. Ils veulent nous plonger dans une guerre totale sans lendemain. En cela les terroristes et eux poursuivent le même dessin, à bout de souffle, la France est en apnée. Maintenant on se rend compte à quel point précieuse est la paix. Faut-il perdre un bienfait pour en apprécier la valeur? Faut-il s'approcher du feu pour en constater la chaleur? Dans ce monde globalisé, Bagdad n'est plus si loin, et nous n'avons qu'effleuré l'horreur de leur quotidien. Du sang sur les mains, du pétrole dans la rétine, les prétendus droits humains, chaque jour ils les piétinent. Soutiennent ceux qui les combattent, combattent ceux qu'ils soutiennent. Démagogues, bureaucrates, politiques schizophrènes. On n'a plus le choix, il me semble. On doit vivre ou mourir ensemble.
En attendant une commission d'enquête parlementaire sur l'attentat de Nice, un hommage national aux victimes sera célébré d'ici octobre. Vivre ou mourir ensemble, disait Kerry James. Vivre, c'est pas mal non plus.
On doit vivre ou mourir ensemble.
Comme un bruit qui court.
Comme un bruit qui court et qui redémarre pour une nouvelle saison sociale. Une émission de rentrée qui fait le grand écart et qui file tout de suite à Uzest, en Gironde, là où s'inventent de nouveaux possibles, là où sévit Radio Uze.
Comme un bruit qui court, Radio Uze, comme un bruit qui court, Radio Uze.
Radio Uze, la radio qui jazz-cogne les idées arrêtées.
Avec audace.
Avec audace, oui, Radio Uze est un laboratoire radiophonique et ça fait 20 ans que ça commence à Uzest pendant le festival de la compagnie Luba, l'Esteyada de la Sarthe, la 39e du nom cette année. Et on n'a pas chômé avec les étudiants du Créadoc, le master documentaire de création d'Angoulême, et les copains de Radio Debout pour mettre en onde ce festival politique, musical et déjanté et anticiper avec audace la rentrée sociale parce qu'à Uzest, il y a de la contestation sociale dans l'air du côté de son Esteyada de la Sarthe et de sa boucherie. Charcuterie artisanale, tirez une boue.
Radio Uze, la radio qui jazz-cogne les idées arrêtées.
Vous me parlez de Uzest saucisson, ça me met l'eau à la bouche. Mais là, je suis franchement dans, à la fois dans l'émotion et dans l'énergie, parce que je me dis, il y a encore des espaces où on va se donner le temps de vraiment trouver à manger.
J'aime bien parce que justement le goût de la tranche du zeste de maintenant me reste pas trop longtemps en bouche comme j'aime, mais par contre je trouve qu'elle est pas assez, il y a pas assez de goût à l'attaque, c'est pas assez hargneux à l'attaque, voilà.
Il y a beaucoup de gens qui voyagent ici, donc on a une convergence des saucissons, je pense.
Je sais pas quoi vous dire moi, hein. Et je sais pas.
Là, c'est la tranche du milieu parce qu'on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Donc, c'est ça.
Franchement, moi, j'adore le saucisson très, très sec pour l'apéro. C'est nickel et je la trouve vraiment à point, quoi. Fantastique. Une charcuterie de haut niveau.
Je pense que le festival, il a quelque chose de très cohérent. La musique, la philosophie, la politique... La poésie.
Je suis vraiment très, très, très contente. C'est une belle tranche de vie.
On trouve aussi la saucifle, la fameuse saucifle.
Je l'ai dit que tu me le dis.
On nous parlait d'un super-héros communal.
Il n'y a pas de super-héros communal. C'est Antoine qui avait trouvé ça, pour rigoler.
Mais bon. Ça voulait dire quoi alors?
Parce que moi, je suis un petit peu omniprésent dans le village. Je circule de maison en maison. Le matin, je croise par le portage du journal. Donc, je m'occupe de la santé des mémés. Et puis voilà, c'est tout. Mais parce que j'aime bien les gens. Ouvert aux gens, c'est tout.
Et est-ce qu'on vous appelle le super-héros?
Non. Et sûrement pas, ça j'en veux pas.
Vous aimeriez pas?
Non.
Pourquoi?
Parce que je suis tiré debout tout simplement.
Ah,
bouché de son état.
On nous a parlé d'une nuit debout. Est-ce que vous êtes au courant?
J'ai entendu des bruits.
Ouais,
dans la nuit, dans la nuit, ne vous j'entends des bruits
qui courent comme un bruit qui court comme un bruit.
Je ne sais pas.
Ah, c'est quoi, c'est vous êtes bien mystérieux tout d'un coup.
Mais je ne sais pas, là, je suis pas au courant.
Hashtag
comme un bruit.
Et oui, nous avons mené l'enquête ici à Radio Debout, Radio Nebout. On ne sait plus très bien comment il faut appeler maintenant ce mouvement social qui est en train de naître ici sur la place du village, sur la place à Uzeste. Des voitures arrivent, des gens arrivent un peu partout pour donc mener, accompagner donc ce mouvement social, cette rentrée sociale qui s'annonce ici à Uzeste, Occupy Uzeste peut-être, une salaison qui s'annonce bien corsée. Alors Marina Touyès, notre grand reporter, a mené l'enquête, qu'en est-il ?
Alors Antoine, comme vous le disiez, c'est fort mystérieux d'un côté, à la fois on sent cette électricité dans l'air, les gens semblent à la fois sereins mais déterminés, que prépare-t-il ? Vous l'avez entendu là, Thierry Nebout ne veut pas vraiment vendre la mèche, on le sent lui-même sous son ton cordial, ma foi, prêt à tout. Que se passe-t-il exactement ici à Uzeste, dans ce petit endroit où tout avait si bien commencé pourtant ? On ne sait plus et Thierry ne nous facilite pas le travail.
Je sais qu'on va me faire quelque chose aujourd'hui. D'ici la fin de la journée, on va faire quelque chose.
Là, c'est de l'agneau cette fois.
Oh, bien, monsieur.
Écoutez, parlez, comprendre. Radio Debout.
Bon, bonjour, c'est le premier Agora Debout ici.
On a tous besoin, d'apprendre toutes et tous ensemble.
D'apprendre toutes et tous ensemble.
Merci.
D'app, c'est délibre de apprendre, de c'est apprendre. Apprendre, c'est apprendre.
Oui, je voulais vous dire que il y a les flics qui sont pas loin. On a été interceptés là. Et bon, par chance, ils ont été très corrects. Hein, très corrects parce que je leur ai dit qu'au moment où ils allaient me donner un coup de matraque, je leur ai dit que j'avais eu des petits problèmes et là, ils m'ont amené dans leur fourgon, ils m'ont fait un électrocardiogramme et une analyse sanguine pour savoir s'il n'y avait pas de problème avant de pouvoir me frapper, quoi. Et je veux dire, c'est quand même un progrès.
Quand vous dites qu'ils sont pas loin, ils sont où ? Est-ce qu'ils sont à Préchac ? Est-ce qu'ils sont à Villandreau ? Est-ce qu'ils sont au Nizan ? Est-ce qu'ils sont à Lignon de Bazas ? Où sont-ils ?
Ils sont entre Villandreau et Uzeste.
Très bien, merci Claude.
Les taux se resserrent donc sur cette nuit debout qui a démarré il y a quelques minutes. Donc on est vraiment dans l'actualité chaude. Alors les différentes commissions commencent à se réunir sur la place. Nous avons la commission Pâté de Tête qui nous a rejoint ici sur le plateau de Radio Uz.
Pensez avec audace.
One, two, one, ça va.
Avec audace, purée, soyez audacieux ce soir, bon Dieu, et demain aussi. Enfin.
Écoute, bras. Yo, écoute.
Le 9e message de la SARS du 14 au 20 août 2016.
Oui, nous sommes sur le feu de l'action donc à Radio Uz. Radio Uz qui sera toujours du côté des nuits nemoutistes. Didier Houd, c'est à vous.
Vous le savez, chaque fois qu'il y a une insurrection, chaque fois qu'il y a des insurgés, il y a tout le temps des troubadours, des poètes. Il faut tout le temps, à cette lutte sans merci, cette lutte perpétuelle, il faut un récit. Et nous avons trouvé notre Rutebeuf. Michel Richard, vous avez déjà composé une ode, on peut l'appeler comme ça, à Thierry Nebout.
Oui, je l'ai fait. Oui.
Mais vous avez l'air fébrile.
Non, un peu pas. Non, plus.
Écoutez, nous avons une analyse de Georges Duberman qui a commencé à analyser le mouvement. Mais tout d'abord, un micro-trottoir peut-être, des réactions des citoyens.
Didier. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous allez manger alors
des légumes farcis.
Avec
avec des tomates, tomates, légumes farcis.
Et dans la farce, qu'est-ce que vous mettez ? Vous mettez que du bœuf, du porc, un mélange ?
Non, pas du tout, non, c'est un mélange que je prends chez Thierry le boucher.
Le super-héros communal.
Voilà, exactement.
Écoutez Antoine, alors je suis à la fois très content parce que qu'on diffuse ce son, parce que Thierry Nebout a une importance mais vitale, puisqu'il s'agit de viande, il s'agit de boucherie, il a une importance vitale. On a compris que Thierry Nebout est à la source de la création à Uzeste. Et là, on a eu Patrick Delettré qui nous a expliqué très clairement que la farce vient de chez Nebout. Alors, Thierry Nebout serait-il le roi de la farce ?
Écoutez.
Écoutez.
Parler.
Comprendre.
Radio Debout.
Je trouvais que c'était un super héros, Thierry.
Dans le genre, oui. Ah, là, d'accord. Hein. D'accord.
Quand la foule aujourd'hui muette, comme l'océan grondera, qu'à mourir elle sera prête, la commune se lèvera.
C'est vrai qu'il faut pas foutre le coup de couteau, qui tue.
Nous reviendrons foule sans nombre.
Le morceau.
C'est physique, hein, quand même. Hein.
Il montait de partout le flot populaire. Il battait en rase marée tous les rivages du vieux monde. Il grondait tout proche et aussi on l'entendait de loin.
Une analyse à chaud de Georges Duberman qui était justement à Uzest pour la 39e Essayada pour parler de la barricade. Et voilà, l'histoire s'écrit aujourd'hui sur cette place du village avec cette nuit debout. Les commissions sont parmi nous.
Ah oui,
quelques commissions. Voilà. La commission imprimerie.
C'est la farce. C'est de casser les textes. Hein. Vous prenez un texte, vous lui cassez la tête. Voilà, c'est tout. Ah, quelle farce!
Écoutez,
écoutez,
parlez,
comprendre.
Radio Debout.
Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon. C'est bon. La ratée, les rognons, la queue en tire-bouchon. C'est bon. Désormais, je veux chanter le cochon, le pâté, le saucisson. Répétons sur cette terre polisson. Qui c'est qui est bon, c'est le cochon, c'est bon!
Comme une vague, en effet, la barricade, elle s'élève, elle se soulève. Plouf, elle retombe et elle se disperse, pas en écume, mais en bout d'objet. Et puis, elle se reforme inopinément, plus puissamment. Elle disparaît ici, elle se reforme plus loin.
One, two, one, ça va.
Avec audace, bande d'artistes.
Écoute.
On va commencer, bon. Première agora debout, ici.
Oh, boudin, boudin.
Tout est dit, effectivement, et maintenant, il est temps d'attendre que le mouvement prenne consistance. Donc, il y a effectivement des files de camions, de citoyens qui arrivent ici à Uzest pour prendre part à ce nouveau mouvement social. Donc, la rentrée sociale, la nouvelle salaison s'annonce forte ici. Et c'est à Uzest qu'on vous attend pour mener ce nouveau combat social et pour changer donc cette société qui ne nous convient pas.
C'est, on appelait ça l'agora debout, hein. Vous êtes assis, mais bon, assis debout. Après l'agora, les tambours, enfin, il y aura des musiques, je sais pas. Il faut que je lise le programme parce que j'ai tout oublié. Il faut lire des livres.
Voilà.
Donc, qu'est-ce qui se passe dans un soulèvement pour aller très vite, hein? C'est tout à coup vient un temps où du temps arrive, où du temps survient, qui est psychologico-atmosphérique, qui est que dans l'air, il y a de la tourmente. Dans l'esprit de chacun, c'est un tourment. Et ça va devenir un orage social.
Thierry!
Ça, je lui reprends. Il est en sens, il s'agit de chihuahua. Il y a les mémères qui arrivent à leur petit chien, lui, il arrive à sa bonnette. Je te jure.
Nous voilà de retour chez Thierry Nebout après cette nuit Nebout mémorable. Et on reste dans la charcutaille, mais là, on rigole plus. On monte au front parce que le cochon, le porc, ça pollue salement, surtout quand c'est élevé de façon industrielle. Et à Saint-Symphorien, à quelques kilomètres d'Uzest, les paroupians, c'est comme ça qu'on appelle les habitants du village, ils sont bien remontés contre un projet d'extension d'une porcherie déjà bien polluante. Mais il en faut toujours plus du jambon de Bayonne pour inonder le marché chinois. Et de l'IGP de Bayonne, s'il vous plaît. Indication géographique protégée, même si on est en Gironde, ça se vend mieux.
Deux saucisses.
Alors Thierry, là, c'est sérieux. Hein. Des fois, je suis sérieux quand même, hein, tu sais.
Oui.
Là, je prépare un reportage sur la ferme-usine de porc à Saint-Symphorien.
Oui.
Qui a demandé un agrandissement.
Oui.
Et je voulais savoir si tu voulais donner ton avis là-dessus ou pas. Toi, t'es charcutier, boucher charcutier.
Oui.
Tu fais tes jambons.
Oui.
Ici. Des jambons du Zest, hein, pas du jambon de Bayonne.
Je pense que la capacité de l'usine à Saint-Symphorien est largement suffisante pour le secteur, quoi, après. À l'agrandissement, on n'en a pas besoin. On va se retrouver avec des algues partout dans nos ruisseaux, dans nos trucs. Le bassin d'Arcachon va se retrouver avec du varech encore un peu en bois là davantage. Donc c'est vraiment pas la peine. Quoi.
Voilà. Et ceux qui veulent du jambon ou en AOC et machin, prennent leurs élevages chez eux. C'est-à-dire, je ne voudrais pas me mettre mal avec le Pays Basque, mais pourtant, ce sont eux qui veulent faire de l'AOC. Ils ont fait un label, très bien, et bien, ils assument leurs responsabilités. Voilà, point. Et puis, ils n'ont pas besoin de nous embrouiller avec leur lisier ici, quoi.
C'est la question du lisier, la pollution des sols, des nappes phréatiques.
On a assez de problèmes comme ça d'écologie, sans venir en rajouter d'autres. Voilà, c'est tout.
Jean-Pierre Leroy, paysan à Ascq, dans le Nord-Gironde. Je représente la Confédération paysanne au Conseil économique et social environnemental de la région Aquitaine.
Alors Jean-Pierre Leroy, vous avez suivi ce dossier donc de ferme-usine,
de porcherie. Ouais. On suit le dossier de cette porcherie industrielle depuis un petit moment.
Ça fait partie des modèles que vous dénoncez. Que
cette agriculture qui détruit les paysans et qui également détruit quelque part l'environnement, enfin en tout cas le perturbe sérieusement, de manière induite, quoi, constamment. Quoi. C'est un processus industriel qui, plutôt que de vivre avec la nature, vit contre la nature. On retrouve ça un peu partout dans toute la France, suivant les filières de production. Mais en l'occurrence, nous, cet atelier industriel porcin, qui existait peu dans la région aquitaine, puisque c'était essentiellement des producteurs fermiers d'il y a 15-20 ans, des petits producteurs fermiers. Et cette industrialisation du porc, de la production porcine, s'est faite sur les bases de la demande du jambon de Bayonne et de la création de l'IGP Jambon de Bayonne, qui a créé une demande industrielle de porc, quoi.
Bayonne-moi.
Jambon de Bayonne ?
Bayonne-moi.
Les salaisons, les industriels de la salaison ne pouvaient pas se contenter des petits producteurs fermiers. Ils ont, comme partout, comme ailleurs, ils ont poussé à l'industrialisation de la filière porcine et poussé à la création de ces grands ateliers industriels. Autrement dit, le transfert du modèle breton en Aquitaine. Quoi. Ça s'est développé comme à Saint-Symphorien, donc un industriel breton du porc qui était en conflit en Bretagne est venu s'installer ici. Parce que le pays était neuf, quoi, et il y avait de l'espace, des zones d'épandage faciles, donc il s'est installé à Saint-Symphorien.
Alors qu'est-ce qu'on appelle l'épandage ?
Alors l'épandage, c'est les rejets de lisier, hein, puisque c'est des porcs qui sont sur Caïboti. Leurs déjections sont récupérées dans des citernes et épandu ensuite sur des centaines d'hectares, voire des milliers, puisque le nouveau plan d'épandage, c'était 1500 hectares. Quoi. Seulement, c'est pareil, on est sur des terres très filtrantes, des sables des Landes. Automatiquement, les épandages vont se retrouver dans les cours d'eau, hein, comme la Lère et le Ciron, et descendre soit dans la Garonne, soit se déverser dans le bassin d'Arcachon, au grand désarroi des ostréiculteurs qui sont déjà très perturbés. Ça crée des nuisances très importantes qui perturbent la production ostréicole du bassin, et aussi bien des huîtres que des moules. Quoi.
Qu'est-ce qu'on retrouve comme produit nocif, toxique dans ce lisier qui est pendu ?
Comme dans tous les élevages industriels, on retrouve des nitrates, évidemment, beaucoup, et puis aussi les reliquats des traitements pharmaceutiques, puisque ces élevages ils ne peuvent pas vivre sans antibiotiques.
Donc là, on arrive à côté de cette ferme usine, hein, d'accord. Donc la porcherie industrielle. Voilà la ferme-usine, la porcherie industrielle de Saint-Symphorien. On va essayer d'aller voir le producteur, enfin le chef d'entreprise.
Je ne suis jamais rentrée dans cette porcherie parce que c'est difficile de rencontrer les personnes. Et Le maire, lui, de Saint-Symphorien, lui a pu visiter, mais nous, non, jamais. Et la porcherie, je pense que c'est les bâtiments qui sont là. Voilà.
Alors, comment s'appelle le lieu-dit ici ?
La Trounière. Ici, ils expliquent qu'ils fournissent le porc pour le jambon de Bayonne. Ils intensifient énormément leurs exploitations parce qu'ils visent le marché chinois. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle ils ont besoin d'avoir une extension de tout ça, parce qu'ils vont vendre à l'exportation.
C'est l'heure du repas, j'ai l'impression, pour les cochons, les porcs.
C'est possible.
Donc, il y a un tracteur, c'est même pas un tracteur, c'est un tractopelle. Là, je partais sur le jambon de Bayonne. J'aurais aimé parler à un producteur ici, au patron.
Et vous voulez dire quoi, ce jambon de Bayonne ?
Eh bien, justement, quelle est la production ici et comment vous envisagez l'avenir du jambon de Bayonne, notamment les productions, l'exportation en Chine, etc. Je peux vous poser deux, trois questions ?
On va le faire à blanc.
Ah, à blanc, c'est-à-dire ?
Sans enregistrement.
Ah bon ?
Enfin, moi, je ne suis pas contre la formation, mais des fois les questions sont un peu bizarres, excusez-moi. Mais...
Pourquoi il y a un problème avec les jambons de Bayonne ?
Non.
Bon, bah, les ouvriers ne veulent pas parler.
Ça, c'est...
Ils m'ont donné le numéro de monsieur Le Foll.
Tu veux appeler ?
Ah oui, c'est pas le ministre.
Hein. Non, c'est pas le ministre, mais ça pourrait. Hein. Et donc, il me dit qu'ils sont 10 à travailler ici.
10 ?
Ouais. Qui a dit...
Oui, oui, c'est possible. Oui,
c'est
bah oui, avec les céréales.
Ouais, 10 pour le tout. Hein.
Pour le tout. Oui.
Pour justifier l'extension de la porcherie, y créer un emploi.
D'accord.
Pour les 5000 porcs supplémentaires. Et c'est sûr que à côté d'ici, il y a un élevage porcin de 150 porcs, un élevage fermier. Qui vivent avec 150 porcs et qui sont une autre échelle.
Bonjour, vous êtes le patron peut-être ?
Non, je ne suis pas le patron. Le patron n'est pas ici. Pas
d'accord. Et justement, je cherchais quelqu'un pour me présenter un peu l'exploitation.
C'est pas ici. Vous appelez M. Le Foll, c'est le directeur, d'accord. Celui qui vous renseignera si vous avez besoin d'infos à ça.
D'accord, très bien. Et au niveau de la polémique sur l'agrandissement de...
Ah, rien du tout. Par contre, du coup, vous faites quoi du coup, ici ?
On est en bord de route là, mais c'est chinois.
Non, c'est chinois. C'est ça.
D'accord. Bon, on va quitter le lieu, il n'y a pas de problème. Ça vous dérange qu'on soit là ?
Oui.
D'accord. Pourquoi ?
Ça nous dérange. Donc, si vous pouvez partir, ça serait bien.
Vous voulez qu'on parte ?
Ouais, tout à fait.
D'accord.
Ouais, merci. Je vous remercie.
Merci de votre accueil.
Merci. Au revoir.
Des privés, donc. Oui, non, mais très bien, propriété privée, oui.
Voilà. Réaction classique.
Bonjour. Vous êtes sur la messagerie Orange de
Patrick Le Foll.
Veuillez laisser votre message après le bip.
Oui, bonjour monsieur, je suis journaliste à France Inter pour l'émission Comme un bruit qui court et je m'intéresse à votre exploitation porcine, donc à votre élevage à Saint-Symphorien et j'aurais aimé savoir un petit peu les tenants et les aboutissants de votre demande d'extension. Merci de me rappeler dès que possible.
Si ce message vous convient, faites le 1.
On va rentrer à...
Dance, la musique vivante. Dance, dance, durandeo, dance. Dance, dance, oh, city vivante. Dance, dance, durandeo, dance. Dance, dance, la musique vivante. Dance, dance, durandeo, dance. Dance, dance, oh, city vivante.
Pollution, c'est que ça pollue les cochons.
Bonjour messieurs.
Bonjour monsieur.
Je fais un reportage sur la ferme-usine, la porcherie industrielle. Vous en pensez quoi, vous ?
Ils ont tout pollué en Bretagne et puis ils débarquent par ici.
Moi, c'est pas un truc... J'adore les débats. Mais c'est pas un truc que je peux parler quand je ne sais pas le sujet.
Voilà.
Mais écoutez, je vais vous dire quelque chose, moi. Question du porc, j'en ai élevé avec un qui bouchait là. Pendant 2 ans, on a élevé ensemble. Et on allait chercher petit. Moi, j'ai rien à dire des cochons.
Non, mais les cochons élevés à la maison, d'accord, mais les cochons élevés de façon industrielle. Cochons,
et ça fait de l'emploi, c'est tout. Ça fait de l'emploi.
Mais là, il parle de un emploi pour rajouter 5000 cochons dans 5000
non,
porcs.
Non, quand même pas là, c'est un peu fort. C'est un peu gros quand même.
Dans le dossier, pour défendre l'extension de porcherie, Ils disent donc création d'un emploi supplémentaire pour les 5000 ports supplémentaires.
Là, c'est un peu gros.
C'est
pas d'accord. Mettre plus de ports qu'avoir une employée de plus, avec tout chômage, ils peuvent embaucher des gens. Et ils gagnent de l'argent quand même avec ça. Non, je pense. Ils veulent tout. L'argent du beurre et le beurre. Vous avez compris? Je comprends mieux maintenant.
Voilà. Patrick Le Foll.
Oui, monsieur Le Foll, c'est à nouveau Antoine Chao de France Inter. Alors écoutez, essayez de me rappeler s'il vous plaît pour qu'on puisse donc avoir votre avis sur la question. J'attends votre appel, merci.
Pour marquer urgent votre message, faites le 4.
Et on rentre dans ce magnifique cercle ouvrier de Saint-Symphorien et on va rencontrer Guy Dupiol, le maire du village, qui va nous donner son avis sur cette ferme-usine.
Cette usine est implantée sur la... est implantée sur la commune bien avant que je sois élu, et j'ai été élu en 95, ça fait déjà quelques années quand même. J'ai connu depuis son installation une première extension. À cette époque-là, le propriétaire, c'était celui qui a laissé le nom à cet élevage, c'était M. Lelay. À travers l'arrêté qu'avait signé le préfet autorisant l'extension à cette époque-là, des engagements avaient été pris par l'éleveur de l'époque. Et ce que j'observe, moi, aujourd'hui, c'est qu'une grande partie de ces engagements n'ont pas été tenus comme ils auraient dû l'être.
Quel genre d'engagement ?
L'épandage des lisiers, sur le stockage des lisiers, sur l'état de l'élevage en général, tout un tas de points qui concernent l'étanchéité, par exemple, de l'élevage, qui n'est pas ce qui devrait être et qui se traduit par des fuites de lisiers dans les sols. Excusez-moi. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, il semblerait qu'il est anticipé sur les autorisations qu'il allait obtenir et qu'à l'heure où l'on parle, il a déjà augmenté le nombre de porcs à l'élevage de façon conséquente. Donc quand j'ai eu cette information, j'ai demandé aux services compétents de la préfecture d'aller sur place et de vérifier. La réponse qui m'a été faite, elle est assez savoureuse, c'était de me dire qu'on ne pouvait pas compter les porcs un par un. Donc on avait fait une estimation du nombre en fonction de la surface des bâtiments. Donc, vous voyez, cette espèce de réponse ne peut pas nous satisfaire. Et puis le dernier point, qui pour moi est peut-être le plus important, dans les plans d'épandage, qui sont avec la demande de l'éleveur, une partie des produits issus de cet élevage serait mélangée à une espèce de... à d'autres produits pour faire un compost qui serait épandu sur des territoires dans les Landes. Pour ce qui est du territoire de la commune de Saint-Symphorien, rien ne change et on continuerait à voir cet épandage, je vous dis, de liquide visqueux, nauséabond, qui continue à polluer nos sols. Et quand on dit polluer nos sols, on va dire « Ah, sauf que ». L'agence Adour-Garonne, lors d'une réunion en préfecture, a donné des chiffres qui sont incontestables. On observe, par exemple, une augmentation des nitrates sur notre zone. C'est un fait, c'est pas le maire de la commune ou une association qui l'invente. Ce sont des gens compétents en la matière. On sait également que dans la petite Leyre, qui est très surveillée, puisque la politique sur l'eau fait qu'on doit aller vers le bon état des masses d'eau, on observe une augmentation des métaux. Par deux fois, le préfet a demandé un sursis à statuer. Deux fois, trois mois. Le dernier délai, c'est-à-dire qu'il est encore dans ce délai de trois mois, il dit qu'il avait besoin de trois mois pour argumenter ou peaufiner les arguments de l'arrêté d'interdiction. Je serais rassuré le jour où l'arrêté refusant l'extension de ce projet sera signé, et pas un arrêté pour se donner un délai de plus à statuer pour peaufiner leurs arguments de refus. Voilà.
Et quelle marge de manœuvre vous avez en tant que maire, donc de Saint-Symphorien, pour empêcher l'épandage, pour empêcher l'agrandissement de cette exploitation ?
Une opposition à travers une mobilisation des populations locales, voire même de l'extérieur, pour manifester sur le site de différentes raisons, même en utilisant quelquefois des procédés illégaux. Mais on vit une époque où on sait pertinemment que si on veut faire aboutir les choses, on n'a pas d'autre solution. Hein, on n'a pas d'autre solution. Donc voilà, mais je vous dis, comment un élu sur un territoire peut agir ? Déjà en mobilisant la population. Et c'est pas rien pour moi. Ça s'est déjà fait, ça se fera encore. On a un catalogue bien fourni de dossiers qui nécessiteront, à un moment ou à un autre, que la population se mobilise. Ensuite, essayer de veiller à ce que le préfet, mais là on est toujours pareil, dans une espèce de pédagogie, d'information, encore et encore, auprès des services de l'État, pour expliquer, dans le détail, les conséquences que pourrait avoir cette extension et cet épandage sur notre territoire. Et je ne rentre pas, parce que je ne suis pas spécialiste et pas compétent en la matière, sur la qualité de l'élevage, les conditions dans lesquelles sont élevés les porcs, etc., etc.
La préfecture de la Gironde vous remercie de votre appel.
Allô ?
Oui, bonjour, monsieur Suquet ?
Oui.
Donc vous êtes secrétaire général de la préfecture de Gironde.
Oui.
Alors qu'en est-il donc de cette demande d'extension de l'élevage porcin de Saint-Symphorien ?
Alors le préfet de la Gironde a décidé de refuser la demande d'extension. Il l'a annoncé publiquement et les services de l'État ont repris contact avec l'exploitant actuel, le propriétaire de l'élevage porcin, pour voir avec lui quelles étaient les mesures à prendre pour garantir maintenant la viabilité de cet élevage qui existe déjà.
C'est acté.
Le préfet a annoncé publiquement qu'il n'y aurait pas d'extension. Maintenant, il y a des mesures administratives à prendre, mais simplement pour garantir le maintien de l'exploitation existante sans aucune extension.
Qu'est-ce qui a décidé, monsieur le préfet ?
Alors, principalement, les réactions, d'abord l'enquête publique défavorable, ensuite les réactions des acteurs locaux, et surtout l'avis des commissions locales de l'eau, qui ont donné un avis défavorable et qui pensent que le projet n'est pas compatible avec les schémas de gestion des eaux dans les bassins. Donc c'est essentiellement un problème de protection de l'eau.
Très bien, je vous remercie, monsieur Suquet.
Merci à vous.
La préfecture de la Gironde vous remercie de votre appel.
Alors Myriam et Gérard Caraz, vous aussi vous élevez des cochons, vous êtes dans le porc quoi, hein, vous êtes éleveur.
Éleveur, pas seulement de porc, on a aussi des moutons et des vaches en bio et on essaye de travailler de manière autonome, hein, en circuit court, on transforme nos bêtes, on va les vendre sur les marchés et en fait c'est une petite exploitation, on se considère plus comme des paysans. Voilà, on fonctionne en petite quantité, on fait à peu près 200 porcs par an, on a 150 brebis et 15 vaches. Voilà.
Donc depuis 1995, on fait le porc en plein air, sous les arbres, comme vous voyez là.
Oui, c'est possible autrement. Merci à Myriam et Gérard Caraz, Annie Desco, Thierry Chéniaud et à toute l'équipe de Radio Uz.
C'était comme un bruit qui court. Toutes les informations sont sur le site de France Inter. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, hashtag comme un bruit. Et venez nous voir la semaine prochaine à la fête de l'UMA. On sera en direct et en public. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.